bonjour, bienvenue au podcast Nebulosa. Aujourd'hui, juste avant de commencer l'épisode, ben, je tenais à faire un petit aparté pour vous inviter que j'ai créé une page Instagram qui s'appelle Nebulosa Podcast. Donc, vous pouvez aller voir, faire un tour. Il y aura quelques petites annonces à l'avance sur les épisodes à venir et également des informations supplémentaires, des fois sur les espèces avec lesquelles. Les invités travaillent. Voilà, pour du petit bonus, des annonces, et puis aussi pour savoir quand est-ce que les épisodes sortent. Maintenant, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Nathalie-Rose Lefrançois, qui est une chercheuse au Biodôme de Montréal. Elle travaille surtout en biologie marine avec des poissons notamment, mais là en ce moment elle fait un projet sur les homards. Et puis c'est une ancienne étudiante de l'UQAR. Elle a fait son bac et son doctorat ici. Et puis c'est ça, donc tu es en ce moment en train de faire un projet sur les micro-algues et les homards pour remplacer les appâts.
Les appâts traditionnels, oui.
Exactement.
Puis bon, ben, on va en parler.
Oui.
L'idée semble peut-être un peu farfelue parce que les homards, comme on les connaît, on sait que c'est des détritivores, là, vont se nourrir de
tout ce qu'ils trouvent.
Des choses en décomposition. Mais il y a une partie de leur diète qui peut être compensée par les algues, les macro-algues. On rapporte qu'ils vont en consommer une certaine quantité. Bref, la problématique, elle est la suivante, c'est que les pêcheries vont très bien. Hein, les changements climatiques, ça n'a pas que du mauvais. Le homard se répand, atteint les côtes de la Gaspésie du côté nord.
On en trouve même ici.
Oui, on en rapporte au Bas-Saint-Laurent, au large ici, sur la côté nord aussi, on en pêche. Puis c'était des choses qu'on ne voyait pas vraiment avant. Donc, c'est ça. Il n'y a pas que des mauvaises choses au changement climatique. Mais d'un autre côté, les espèces qu'on utilise pour les appâter, là, on appelle ça la bouette. La bouette dérive de bait. Là. Mais c'était du hareng, du maquereau, toutes sortes de poissons fourrage qu'on appelle. Là, des poissons de faible valeur commerciale qu'on utilise pour les pêcheries, notamment l'homard, le crabe des neiges, autres invertébrés. Là. Sont attirés vers les cages, à pâter comme ça, pour éventuellement constituer une pêche. Puis un gagne-pain pour des communautés entières. Là. Fait que nous, on arrive dans une période de déclin de ces espèces fourrages-là. Donc, il y en a de moins en moins. On en importe. Là. Je pense que du maquereau pour faire de la bouette, ça vient peut-être d'Espagne et ces pays-là. Là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe.
C'est pas local pendant tout.
Non, non. Puis c'est pas soutenable, surtout. On voit bien qu'on a atteint le fond du baril. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a toujours des... On peut trouver des alternatives, une autre espèce qui est en abondance, mais on tourne quand même autour de la question, c'est des poissons pour capturer d'autres invertébrés, d'autres organismes. Donc, la soutenabilité, si ça peut se dire en France, la durabilité est un peu questionnable, là. On peut se poser la question sur la vertu de faire l'exercice à l'infini, là, de retrouver une proie, une autre alternative qui, elle aussi, est une partie d'un écosystème, elle aussi va être exploitée, elle aussi va décliner éventuellement ou va réagir à cette pression de pêche-là. Donc, l'utopie qu'on cherche avec les micro-algues, dans le fond, c'est s'affranchir de tout ça, plus avoir à manipuler, pêcher une autre espèce pour en attraper une autre.
Ça devient une double pêche.
C'est ça. Puis aussi, ça vient aussi avec de la conservation, des enjeux de conservation. On la pêche. Après, conservation au niveau de la qualité, là. Il faut la congeler, cette prise-là.
Ben oui, l'Espagne, c'est pas à côté.
Non, non, mais même ici, quand on le pêchait, on le congelait, parce que la pêche est dans une autre période de l'année. Tu sais, c'est pas nécessairement frais, tout ça. Là. C'est pas nécessairement tout du produit frais. C'est du produit un peu altéré, même, que je dirais. C'est congelé en bloc... Il y a pas grand, c'est pas pour la consommation humaine, disons. Puis ça aussi, c'est une autre aberration. Le maquereau, le hareng, c'est des produits de consommation humaine. On s'en sert pour attraper un autre poisson. Donc, tu sais, c'est pas éthique. On peut se poser des questions. Mm-hmm. Bref, la micro-algue, elle, est en abondance. On sait comment c'est facile à retrouver dans le milieu. On sait aussi comment les cultiver. On sait aussi qu'est-ce qu'ils ont besoin pour... accélérer une croissance ou exprimer un caractère qu'on désire. C'est quand même facile, les micro-algues. Il y a des protocoles d'élevage pour la. Mettons qu'il y a 2000 espèces de micro-algues qu'on sait un peu comment cultiver. Il y en a probablement 200 qu'on sait très bien cultiver. Et souvent, on les cultive à partir de rejets de CO2 émis par une source, souvent polluante. Donc, ils vont servir de ce CO2-là pour, dans des bioréacteurs dans lesquels les micro-algues sont dans un milieu enrichi. On les soutient, puis on les développe, on les cultive, puis on les récolte. C'est quand même une belle alternative à une pêche.
Utiliser le CO2 qu'on veut justement plus avoir dans la.
C'est ça. Puis là, on valorise cette biomasse-là qui est naturelle, qui est quand même riche en lipides, en protéines, en composés intéressants pour plein de secteurs, là. Agroalimentaires, cosmétiques, bio, pharmaceutiques. Ils vont produire des molécules qui vont être d'intérêt. Puis il y a une richesse aussi nutritionnelle au niveau des lipides, des protéines et tout. Fait que c'est comme une approche holistique à quelque chose qu'on n'envisageait pas qu'il pouvait le devenir. T'sais. On soutient une économie de communautés côtières avec un produit qui serait cultivé probablement dans les zones industrielles de notre province, dire Montréal, Québec, où les usines sont polluantes. Puis on produirait cette biomasse-là pour le bénéfice des communautés côtières, là, puis soutenir les pêcheries dans un esprit de durabilité. Chose c'est la grosse tendance actuellement, c'est d'avoir des approches beaucoup plus soutenables à tout ce qu'on fait. Donc les pêcheries de homards, on sait qu'il y a eu beaucoup d'enjeux récemment là, sur la traçabilité, la durabilité des pêches. Mais on est dans cet esprit-là. Puis là, on met une coche de plus avec un appât qui, lui, serait durable, soutenable, puis même une belle solution à de la pollution générée par des industries. Puis c'est cette micro-algue-là, pour les gens qui sont familiers avec ça, on peut concentrer cette biomasse-là, on peut faire des genres de pâtes. Ça se vend couramment sur le marché, là, de la spiruline. Ça peut être sous forme de pâté, semi-humide ou poudre très sec, mais okay. ça produit beaucoup de biomasse qui, elle, peut être facilement traitée puis conservée. Sans avoir à être congelé nécessairement, c'est plus stable. C'est un petit peu l'approche qu'on envisage avec les gens du secteur, là, le petit start-up montréalais là, qui s'appelle Algaia Technology. Là. C'est eux qui ont développé l'approche bioréacteur production optimale de microalgues à partir de déchets industriels. Là. C'est un peu leur créneau. Là.
Donc, eux qui sont assez récents dans leur développement, mais ils ont des ambitions quand même assez grandes.
Oui, mais ça vaut pour l'ensemble du secteur des microalgues. Ils sont très. Il y a plusieurs avenues de valorisation qui sont. Ça, c'en est une que Algaia a identifiée, qui semble être porteur. En tout cas, le moment est très opportun parce qu'on a actuellement un déficit dans nos pêcheries de soutien des pêcheries là, pour la production de bouettes. Pour nos pêcheurs. Les prix changent en conséquence, l'accessibilité, la disponibilité, tout est rendu imprévisible. Donc, si on avait cette source-là ou un autre, là, ça peut être autre chose aussi, là. Mais si ce type de produit-là devenait disponible, je pense que ça pourrait régler des incertitudes au niveau des pêcheries. Puis on n'arrêterait probablement pas au homard, on pourrait déjà envisager le crabe des neiges ou autres invertébrés, là.
On pourrait l'utiliser dans tous les domaines de pêche
avec
au Canada.
Peut-être un certain niveau de oui, c'est ça. Un certain niveau d'adaptation, parce que c'est pas toutes les. L'homard va répondre à quelque chose de différent.
Mais ça prend des différentes espèces de micro-algues, mais exact. Si on reste dans le domaine micro-algues.
Oui. Mais c'est riche d'espèces. C'est ça qui est le fun. Puis c'est facile à manipuler, c'est facile à produire. Ben facile. Relatif, là. Donc, nous, dans l'équation, tout le monde doit se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Là? Donc, on est approché par cette compagnie-là, ce start-up-là, puis c'est du beau monde, motivé, avec des bonnes idées, puis le cœur à la bonne place. Fait que, ils sont venus nous voir et cherchaient un endroit pas trop loin de leurs usines, pilotes, là, si vous voulez. Ils sont installés à Brossard. Nous, on est on est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, le biodôme. Donc, ils sont venus nous voir pour voir si on ne pouvait pas collaborer avec eux dans la mise au point ou le développement de ce produit-là. Dans sa dimension acceptabilité, quelle est la réponse du homard un produit qui pourrait être destiné au marché de lapin, si vous voulez, alternatif. Puis là, on s'est dit, bon, je connaissais pas grand-chose au homard, mais c'est pas l'envie qui manquait de m'y intéresser. Surtout dans cette approche holistique-là, là, on se dit, hey, faut que je sois là-dedans, c'est vraiment tendance, là. Puis le concept, c'est un beau concept. Donc j'ai dit, oui, on va le faire, mais on va le faire... Il y a une période d'apprentissage qui se déroule, qui est pas mal finie maintenant, là, d'apprentissage de comment se comporte le homard en captivité, comment il réagit à différentes interférences, si tu veux, de son, de vibration, c'est quoi sa particularité. Je me suis rendu compte que les homards avaient des personnalités. Il y en a qui sont frondeurs, il y en a qui sont très peureux, il y en a qui sont aventureux, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont passifs. J'ai appris beaucoup de choses. On a fait des tests au début. On avait les deux sexes mélangés. Moi, je voulais voir s'il y avait un effet du sexe. Ben, il y en a un. Si on veut des bonnes réponses standards, multiples, répétées, il faut faire abstraction du sexe. Il faut vraiment isoler ce facteur-là. Et donc, vu que j'ai compris aussi par différentes collaborations, échanges avec les experts, que ce qu'on retrouve dans les cages, c'est plus de 70% c'est des mâles.
De toute manière, souvent les femelles, on les rejette.
Ben non, c'est pas des crabes, ça. Les homards femelles viennent plus grosses, même que je dirais que certains mâles, là. C'est pas. Je pense pas qu'il y a vraiment un dimorphisme de taille là, chez le homard, à moins que ça soit. D'habitude, la femelle, je pense qu'elle est souvent plus grosse. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai cette opinion-là. Mais c'est surtout par rapport au comportement d'aventure. Si la femelle est porteuse d'œufs.
Elle va vouloir protéger ses
œufs. Elle va pas avoir tendance à s'aventurer dans une cage. C'est quand même un milieu qui... Il faut l'appréhender, il faut grimper là-dedans, il faut rentrer dans une crevasse. Après, ben c'est ça. Donc, 70% des homards capturés, si je me trompe pas, peut-être davantage, c'est des mâles. Parce qu'ils sont pas porteurs d'œufs, ils ne portent pas d'œufs, ils n'ont pas cette contrainte-là. De survie de l'espèce, là, autant prononcée que chez les femelles. Donc, on va retrouver déjà des mâles. Donc, en restreignant nos essais préliminaires à la réactivité de la peau, est-ce que l'homard y va ou il va pas? En restreignant le sexe, en restreignant aussi, en imposant certaines conditions environnementales en captivité, on arrive à exprimer ce comportement-là d'une façon assez exemplaire. Donc, vous imaginez le topo, on a un appât alternatif à base de micro-algues. En parallèle, on a un autre montage identique, mais cette fois-ci, on met un morceau de macro, du macro un peu avancé, faisandé, si on veut. Puis là, on regarde, on a un montage vidéo, on enregistre en continu, puis on regarde l'expression des comportements de détection, d'orientation et de déplacement du homard face à un ou l'autre des appâts qu'on va mettre. Et la mise au point s'est faite avec du macro. On voulait vraiment voir si notre setup était conforme pour l'expression de ces comportements-là. Ça nous a pris un gros 3 mois à nous ajuster à tout ça. Et maintenant, la réponse est très, très standard. On a une répétition. Oui, il y a une variabilité, mais dans 50-60% des cas, le homard va démontrer la pleine palette d'expression, de comportement, et va se diriger vers l'appât, qu'il soit de micro-algues ou de macro, ce qui est très...
C'est bon signe.
Ben oui.
Ça voudrait dire qu'il y va, c'est peu importe l'appât.
D'un autre côté, il ne faudrait pas que ça soit trop bon, comme disaient mes collègues du MPO. Si c'était trop bon, on aurait une pêche exceptionnellement élevée. Comment qu'on appelle ça, le pourcentage de capture par l'engin de pêche serait énorme. Il faudrait réajuster, là, parce qu'on pourrait affecter la ressource là, si c'est trop efficace. Parce qu'en ce moment, c'est pas très efficace. La pêche au homard, il faut s'entendre. Mm-hmm. S'il y a 10 homards qui se présentent à la cage, il y en a peut-être un ou deux qui vont être capturés. Là. Pas plus que ça. C'est pas vraiment une pêche qui est efficace. Là. C'est vraiment... L'homard a toutes les chances de s'en sortir. Ceux qu'on capture, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou il était un peu insouciant. C'est ça.
Il a aimé ça, la cage.
Ouais.
Il a trouvé que c'était comme une protection pour lui.
Ouais. Là, je te regarde, regardez ton... C'est peut-être le chronomètre, là.
Oui, c'est le temps.
OK, ça va-tu? Oui. On est bon. Ouais, parce que c'est pas fini. On semble avoir trouvé quelque chose qui répond bien. Puis c'est micro-algue, c'est vaste, je vous ai dit et tout, puis je vous ai rien dit en même temps. Là.
T'as dit 2000 quelle... espèces, 200.
Ouais, c'est ça. Vous savez pas du tout de quoi elle est conçue, puis c'est ça le jeu, c'est de pas le savoir, mais de voir les résultats, puis d'avoir une approche statistique là, très rigoureuse là, de. Mm-hmm. Notre design expérimental est solide, la répétition sont là. Ce qu'on a trouvé peut être amélioré aussi. Tu sais, c'est la preuve. On a essayé 2-3 formulations différentes. Et là, on semble avoir trouvé quelque chose qui démontre une réponse équivalente à si c'était du macro. Peut-être même un petit peu mieux, je dirais. J'ose le dire. Donc, ça peut être amélioré. Ça peut être amélioré. Peut-être pas tant dans la réactivité du homard, mais peut-être dans la texture de la formulation, sa résilience dans l'eau salée. Combien de temps ça va durer? Combien de temps qu'elle va rester?
En général, une cage à homard là, avec les abats traditionnels, on le laisse combien de temps?
48 heures, 24 okay. heures, ça dépend où on est. Moi, je pense que c'est 48 heures. On les pose. Ça commence à pêcher. Le pêcheur peut retourner le lendemain ou le surlendemain, dépendamment de l'étendue de... son cheptel de cage, parce qu'il y en a certains qui en ont plusieurs à relever. Mais on parle de 48 heures. On veut démontrer que la formulation qui est testée va demeurer, va avoir un potentiel d'activation ou d'attraction sur cette période-là de 48 heures. Est-ce qu'elle va toute se défaire? Est-ce qu'elle va décliner dans le temps? C'est toutes des choses qu'il va falloir qu'on regarde dans la production de cette formulation-là. Donc, c'est des choses qu'on peut aborder. De la même façon, moi, je fais des tests en milieu, en conditions de captivité, dans un système en circuit recyclé. Donc, c'est de l'eau renouvelée, c'est de l'eau de mer qu'on fabrique, puis qu'on utilise.
Avec du sol synthétique.
Ouais. Puis à chaque fois qu'on fait un essai, on relargue l'eau, on en refait de la nouvelle. On fait bien sûr qu'il n'y a pas de la contamination qui peut être détectée par le prochain spécimen qui va être mis à l'essai. Donc, c'est un couloir, c'est rectiligne, un couloir. L'appât est à l'autre extrémité. L'homard est dans son abri. On simule la photopèse naturelle. La salinité, la température sont optimisées pour que la réponse, là, quoi, que le homard ne soit pas dans un état de léthargie parce qu'il fait trop froid ou la salinité n'est pas bonne. On lui donne tout ce qui est optimal pour lui. C'est-à-dire, là, on travaille à 18 degrés Celsius, 19 degrés. On est dans l'optimum chez cette espèce-là, là, pour qu'il s'exprime bien son comportement de recherche alimentaire, puis de mobilité. Si on travaille à 5 degrés, comme peut-être qu'on le pêche à des zones de pêche, que peut-être c'est 10 degrés, 5 degrés, il ne va pas avoir la même rapidité de détection ou d'action, de déplacement actif.
Son déplacement va être
plus lent, puis peut-être même qu'il ne va pas avoir faim. On introduit de la variabilité que moi, dans mes conditions actuelles, je n'étudie pas. Le but, c'est de trouver l'élément actif dans une formulation.
Pour l'instant, on veut juste savoir, ouais, est-ce qu'il y a une réponse ou il n'y en a pas.
Puis la réponse, elle est double. Je vous ai parlé que du déplacement actif vers la proie, mais je pourrais vous dire une autre information qui serait intéressante, c'est de voir s'il la consomme. Oui, il se déplace. Il n'y a pas besoin de la manger entre toi et moi pour être capturé dans la cage. Il a juste besoin de se rendre dans la cage. Mais si on s'ouvre l'esprit et on dit, OK, on fait la culture du homard déjà. On fait de l'ensemencement de juvénile de homard. On pourrait peut-être penser qu'il pourrait se nourrir de cette même formulation-là, ou à peu de choses près, une adaptation. Donc, est-ce qu'il s'en mange? Puis si oui, combien qu'il en mange? On se pose
si
la question
en mange,
aussi.
C'est beaucoup mieux que des apports animaux.
Oui,
parce
exactement.
Que, dans le fond, c'est directement au plus bas de la chaîne alimentaire.
Oui, c'est vraiment production primaire. Ouais. Donc, oui, il en mange. Puis beaucoup. Donc,
beaucoup.
Quand je leur en offre comme ça, là, devant eux, ils sortent de l'abri. Ils vont en manger, on va retourner quelques heures plus tard. On remplace tous les aliments qui n'ont pas été consommés, mais on voit très bien qu'il a consommé
une
bonne partie. Puis sur 3 jours, on peut dire, ben, il en a mangé tous les jours. Puis au début, il en mangeait moins, mais à la fin, il mangeait tout. On est capable de voir cet aspect-là des choses. Puis ça, c'est une autre information qui est intéressante. Il s'en nourrit. Effectivement, il s'en nourrit. Effectivement, ça le fait se déplacer. C'est quand même intéressant. Puis, la dimension qui nous resterait dans un futur pas trop lointain qu'on aimerait. C'est, là, ça serait un projet beaucoup plus structuré, là, plus appuyé financièrement par des programmes plus imposants. Il y aurait des partenaires aussi mieux établis. Tu sais, le Biodôme, c'est une institution de recherche, mais c'est pas que ça, là. On s'en cachera pas. C'est une zone d'éducation, de conservation et de recherche. Donc, des gros instituts, ben, je pense à Pêche-Océan à Mont-Joli, je pense à l'UQAR, je pense à l'Université Laval, qui a des expertises qui seraient complémentaires à un projet plus structuré. On a tracé la voie. Ben, je pense qu'on est là. Les tests en mer, c'est le test
le
ultime.
Point final,
le test ultime. Convaincre les pêcheurs que ce qu'on leur propose est une alternative viable et à bon coût. Il ne faudrait pas que ça coûte trois fois le prix que de la boîte traditionnelle. Donc, il y a tous ces enjeux-là là, de formulation, de comment ça va répondre dans les conditions réelles en mer. Donc, il y a tout un apprentissage de notre part aussi. Et c'est là qu'on est rendu, je pense. Donc, je pensais bientôt faire des contacts avec les associations de pêcheurs, là.
Okay.
Avec Algaïa Technologies pour voir comment on pourrait couvrir cette période-là, de ces essais en mer-là, justement. C'est quelque chose qui doit être structuré et bien fait pour ne pas ni décevoir, ni faire des accroirs. Il faut vraiment. C'est le vrai test. Là. Puis avant d'être rendu là, il faut faire qu'on mange des croûtes et qu'on développe un peu mieux le produit, mais c'est pas illusoire là, de penser que ça va fonctionner. Puis si ça fonctionne, ben, le marché du homard, ben. De la pêche au moins, des pêcheries. Là. C'est une grosse économie, une grosse part de l'économie des provinces atlantiques, puis d'une partie du Québec aussi. Là.
On n'a pas tant de produits de pêche au Canada que ça, puis le homard est quand même un gros bout de ça.
Oui, puis la Nouvelle-Angleterre, là, le gros des pêches là, de homard, c'est pas une espèce qu'on retrouve partout dans le monde, là. C'est ici. C'est dans ces zones-là, puis l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, le Maine, le Québec. Peut-être avec les changements climatiques Terre-Neuve, là. Pourquoi pas?
Ça sent bien.
Ouais. Non, moi, je trouve que c'est un super projet. Puis, tu as raison de m'avoir contacté là-dessus. Ça m'allume, puis c'est ça. Je pense que... j'aime ça travailler avec le privé aussi. Ça donne une autre dimension, là. Il y a un sentiment de... Comment dirais-je? D'urgence tout le temps, hein, quand on travaille avec l'industrie. Ils sont toujours pressés, là. Ouais. Donc, on s'adapte à ça. Fait qu'il faut que les questions soient simples, puis que la réponse le soit tout autant, mais très... pas subtile, là. C'est oui ou c'est non. Mais il faut que la question soit simple, puis on progresse dans la complexité aussi, là, avec eux. Donc, c'est ça.
Puis, tes appâts?
Oui.
Est-ce que tu l'as fait avec de l'agar pour faire une...
Tu vois, le procédé de formulation, c'est pas moi qui fais ça. Nous autres, on est tenus très loin de cet aspect-là, pour pas non plus... Tu sais, si jamais il y avait quelque chose qui se développait, ça serait sûrement... tu sais, on n'est pas les seuls qui font... Ils ne sont pas les seuls qui font des micro-algues non plus. Mm-hmm. Tu sais. Mais dans cette... Ce produit-là, ce type de produit-là, ben j'ai pas trouvé. On est en train de faire une revue de la littérature justement sur les techniques de quantifier les déplacements du homard vers un apport. C'est toute une approche qu'il faut mettre en branle, puis des outils qu'on utilise. C'est pas si évident que ça, là. Donc on fait une revue de la littérature là-dessus. Et aussi sur les alternatives qui ont été utilisées par le passé. Puis si on a du temps pour en parler, je t'en parlerai juste d'une très locale, l'île de la Madeleine, du phoque. Il y a une chasse au phoque, qui est une industrie un peu très locale de transformation du phoque. Donc, une avenue qui a été explorée, vu que les quantités de biomasse utilisées pour l'appâtage traditionnel étaient en déclin, ils ont dit pourquoi on n'essayerait pas le phoque. Donc, ils ont fait des essais sur le phoque. Ça semblait très bien aller, là, je dirais kiff-kiff, là. On note pas de différence, mais on trouve pas que c'est mieux non plus, mais ça semble vouloir fonctionner. Bon, du phoque. C'est très local, je veux dire, il n'y en a pas partout. Il y a une biomasse qui doit être réglementée. On n'a pas accès à... ça doit être réglementé, combien tu as le droit d'en prendre. Il y a déjà une limite au niveau de la biomasse que tu peux récolter. L'accessibilité des marchés, comment qu'on... Mais là, tu te dis, OK, mais là, si ton marché principal, qui est les États-Unis, on sait comment ils sont sensibles avec l'histoire des phoques. T'as entendu parler de Brigitte Bardot. Ça fait de bonne presse, la chasse aux phoques. Aux États-Unis, c'est non, non. Et donc, ce qui semblait vouloir fonctionner, ce qui est quand même très acceptable pour un Madelinot, pour les pêcheries des îles de la Madeleine, puis on le conçoit très bien, nous, que pourquoi pas? Si ça fonctionne, il y a la ressource, il y a le savoir-faire, ça va bien. Ben, si le marché américain dit « j'achèterai pas ton phoque, ton mât, parce que tu utilises du phoque », c'est ce qui t'arrive.
Fait que là, on perd tout ce qui est investi là-dedans.
Probablement que c'était pas... Mais ça remet les choses en perspective, encore une fois, sur est-ce qu'on ne devrait pas justement trouver quelque chose qui s'affranchit de toutes ces perceptions-là, comme les micro-algues ou quelque chose qui comment je dirais, facilement produit, pas beaucoup d'empreintes au niveau de son exploitation, de sa transformation.
Et quelque chose qui n'a pas besoin d'être chassé ou pêché.
C'est ça, puis qui répond quasiment à un besoin, dans le sens que, tu sais, on boucle le cercle un peu avec la micro-algue qu'on apporte. On arrête de s'empêtrer dans les fleurs du tapis tout le temps. Un autre essai, ça pourrait être, bon, les gens disent, tu pourrais, Nathalie, as-tu essayé les espèces envahissantes? Tu sais, comme la tanche ou la carpe. Oui, je pourrais, mais pourquoi? Pourquoi on se resoumettrait à un cycle de biomasse, de conservation de la matière, la congélation, la décongélation, tout le processus de transformation utile, ou les interventions qui sont nécessaires pour amener ce produit-là aux pêcheurs, comme appât? Pourquoi on ferait ça?
La source non plus, elle serait pas éternelle malgré tout.
Elle serait pas éternelle. On semble dire que c'est un gros enjeu, les espèces envahissantes. Oui, c'est un gros enjeu, mais une pêcherie aux espèces envahissantes, j'en connais pas beaucoup. Ça pourrait se développer aussi, mais là, on tourne un peu en rond.
Il faudrait trouver un moyen de maintenir l'espèce envahissante en même temps que l'utiliser.
Un petit peu ça. Mais l'idée est très bonne, c'est sûr, c'est sûr. Mais si je dis à n'importe qui que tu as quelque chose qui peut être mieux, je pense que tu vas y penser, tu vas dire, ah oui, non, ben moi, j'appuie cette recherche-là, parce qu'elle répond beaucoup plus, elle répond à beaucoup plus d'enjeux que de trouver une autre espèce, un autre écosystème, une autre récolte, une autre transformation. C'est ça un peu le projet. Donc, beaucoup, beaucoup d'espoir un peu, je pense. C'est pas mauvais.
C'est un projet qui donne des belles pensées là, par rapport au futur, malgré tout.
Oui, puis ça m'étonnerait pas que ça aille beaucoup plus loin que ça. Là, on va dire. On voit déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec les micro-algues. On peut faire des... c'est le terme simple là, pour carburant à base de micro-algues. Là. On utilise cette biomasse-là pour faire des carburants, puis des huiles, puis des produits qui vont chercher des prix assez élevés là, en pharmaceutique, par exemple. Fait que, oui, pourquoi pas?
Et puis c'est uniquement la première carte à jouer, puis après ça, tout le reste va découler.
Ouais. Ça n'a pas besoin d'être fancy. Là. Dès que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, tu peux perfectionner le tout. Donc c'est intéressant, c'est un beau projet. Mais comme je te dis, moi, je suis tenue à l'écart un peu de qu'est-ce que c'est, comment on le fait, c'est quoi notre truc. Ouais, moi, je l'essaye.
Toi, t'es plus l'aspect homard.
Je l'essaie, puis j'essaye d'envisager ce qui vient ensuite. Puis on raffine l'approche là, au maximum. Là. Puis il va y avoir d'autres espèces sous notre radar, comme je t'ai dit, là, le crabe des neiges, pourquoi pas.
Mm-hmm. Mm. Surtout que les pêcheries ont de la misère avec le crabe des neiges.
Oui. Puis, il y a un aspect qui est super le fun aussi, c'est de travailler avec les pêcheurs. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Oui, oui. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, puis que c'est bien reçu. Puis, je pense qu'on va avoir résolu un beau problème pour eux. Là, parce que c'est récurrent depuis plusieurs années là, qu'on voit ça arriver. Là. La recherche d'un appât de boîtes.
Ben, ce que j'ai vu de certaines données, c'est depuis comme 2011 que le hareng, il y a des stocks qui diminuent beaucoup.
Oui, oui.
Même chose pour le maquereau.
Oui, oui. Ils voient venir, ils sont pas fous. Ils voient venir, ils voient les prix monter, descendre, remonter.
Ah, mais ça doit être cher aussi de faire venir ça d'Espagne.
Oui. Et c'est ça. C'est développer quelque chose qui va être rentable à produire, qui va être achetable par les producteurs. C'est que chacun trouve son compte, là, qu'il y ait un bon équilibre au niveau de ce marché-là. Il ne faut pas non plus abuser. Là. Puis il y a d'autres choses qui ont été faites là, au niveau des alternatives, là, mais avec des sous-produits de poissons. T'sais, les toujours usines génèrent beaucoup de sous-produits, mais on est encore dans la biomasse. T'sais, on extrait le maximum de cette biomasse-là, mais quand même, on est encore attaché à une ressource.
J'imagine que l'idée derrière d'avoir toujours un sous-produit de poisson, c'est de se rapprocher de ce que le homard mange normalement. Là.
Oui, ben c'est ça.
Il est charignant.
Mais si tu as la foi, tu dis, moi, je vais trouver le composé qui va être détecté, la signature olfactive ou que les sens du homard peuvent détecter et se diriger vers cette... Ça correspond à ce qu'ils cherchent. Mm-hmm. C'est un composé volatile, tu sais, qui est dans l'eau, qui...
C'est une petite molécule, puis là, elle se disperse sur n'importe
où. Il la détecte, puis là, c'est pas l'aliment comme tel, oui, qui en contient, mais si toi, tu trouves l'équivalent, lui, tout ce qu'il veut, c'est la signature olfactive. C'est lui, c'est ce qu'il fait se déplacer. C'est ce qu'il fait rentrer dans cette cage-là. Donc c'est ça. Puis je pense que c'est... Il y a plein de choses qui doivent attirer le homard. Je sais pas. Il doit avoir plein de choses, différentes signatures, mais il y a une palette qu'il faut découvrir. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'études là-dessus aussi. Là. Qu'est-ce qui fait bouger? Des belles molécules comme des composés chimiques là, ou des comme là, la cadavérine. Il y en a un autre, c'est la putrécine.
Ah, des beaux noms.
Des beaux noms. Je préfère des choses qui sentent moins mauvais. Là.
Ça sent pas bon?
Non. Non. Si c'est concentré en plus. Mais c'est y a des acides aminés, différentes protéines aussi qui vont attirer des lipides, des acides gras. Qui vont...
C'est nutritif malgré tout. Là.
Aussi. Ben oui, c'est ça qu'ils veulent.
C'est bon.
Mais sinon, c'est étonnant, ils mangent pas que... Des animaux en décomposition.
Mais sûrement pas.
Non. Ils vont, ça peut être très frais, puis ils vont le manger, ou ça peut être des algues aussi. Là.
C'est sûr que si on parle de micro-algues dans le milieu naturel, ils vont pas pouvoir vraiment manger ça, parce qu'avec leur pince, ça marche pas.
Non, c'est
mais
c'est
là,
pas
étant
des
donné qu'on fait
un
appât qui est un peu plus solide, un peu plus comme une boule, c'est plus simple pour eux autres d'aller se réjouir vers ça.
Ouais. Puis voir la forme aussi de cet aliment-là, quelle forme ça va prendre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui est manipulable? Qu'est-ce qui est souhaitable?
Est-ce qu'ils ont une bonne vue pour savoir ça?
Les homards? Ah! Non, c'est pas une histoire de vue, là. Tu devrais
juste
voir.
La texture quand ils...
Est-ce qu'on peut mettre des vidéos avec des podcasts? Pour les...
J'ai une page Instagram, là, je pourrais mettre...
Parce qu'il y a des vidéos, c'est pas nécessairement ceux qu'on a enregistrés nous-mêmes et qui démontrent un peu l'expression des comportements du homard quand il cherche une proie ou qu'il cherche quelque chose à... Donc, différentes étapes, là. C'est pas nécessairement sa vision, là, à ce moment-là. Je pense pas qu'il y a une vision aussi aiguisée qu'on pense.
Il doit avoir une très bonne vision.
Non, moi, je penserais pas, mais il détecte très bien les subtilités de lumière, à mon avis, parce que selon nos expériences, nos essais, là, on voit très bien qu'il y a une réponse dès qu'on change de la phase de nuit-jour, là, ou jour-nuit, si on veut. Ils ont des pics d'activité la nuit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas le jour, mais ils sont vraiment plus actifs la nuit, en absence de lumière, là, proprement dit. Fait que nous, nos essais, on les conduit dans la phase nocturne du cycle.
Ce qui est probablement la période où ils vont s'aventurer.
Bon, on a choisi de faire ça pour limiter un peu la... Puis les tests durent une certaine période, mais c'est très rapide. Quand ça l'attire, c'est sans équivoque. Ça prendra pas 3 heures, là. Ça se passe dans la première heure, règle générale. S'il est attiré vers le maquereau ou tout autre appât, ben, ça va se faire dans l'heure qui va suivre. Là.
Ça se peut que ça ait un lien avec le temps que ça prend pour la molécule de se disperser puis de se rendre à lui?
Ben, dans mon contexte expérimental, qui est un circuit fermé, ça se fait rapidement la saturation. S'il y a quelque chose qui l'intéresse, ça sera pas long que ça va embaumer là, dans tout le volume que je vais avoir mis à ma disposition. Tandis qu'en milieu naturel, il va y avoir une diffusion, veut pas, des courants. Mm-hmm. Donc ça va être plus... ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Ou,
il va y avoir des dimensions.
Ouais. Mais moi, je voulais vraiment un signal que c'est ça. Ça, mm-hmm. ça fonctionne. Comparé au macro, soit que c'est meilleur, soit que c'est équivalent. J'enlève la variance là, naturelle, là, la variabilité naturelle qu'il y aurait dans le milieu. Mais tu peux identifier qu'est-ce qui semble fonctionner. Puis après, on peut aller plus loin puis tester là, dans des circuits ouverts. Comme si on se dirigeait vers un... On travaillait en milieu ouvert, ce serait plus proche du milieu naturel. C'est-à-dire l'eau est renouvelée à chaque fois. On aurait un autre type de réponse, probablement. Mais que non, on peut rêver encore, là. Comment ça peut prendre de sens, là. Ouais. Il y a des travaux aussi actuellement sur les microalgues, bien antérieurs à ce qu'on fait aujourd'hui, sur l'intérêt des microalgues en nutrition chez les poissons. Comme pas un additif, mais un ingrédient, comme les protéines de poisson, les farines de poisson, dans une formulation là, moulée pour le poisson, remplacer une partie de celle-là par des microalgues. Ça a été testé, ça a été étudié, et on voit pas nécessairement. On voit pas la palette de les effets dans toutes leurs possibilités là, mais on voit tout de même que ça a pas d'impact sur la croissance. C'est qu'on rajoute, qu'on remplace une partie des protéines animales par des protéines végétales.
Donc ça reste la même chose. Il n'y a pas de diminution non plus de la croissance.
Ben, si on regarde juste au niveau de la croissance, souvent, on ne verra rien. Ça va être accepté, assimilé, transformé par le poisson. Il n'y aura pas d'impact. S'il y en a un, bon, ben, il faut changer quelque chose. Absolument. Mais on voit déjà qu'il y a de la recherche dans le remplacement des farines de poisson, protéines de poisson, par des sources végétales, dont les microalgues. Fait que c'est infini. Là je pensais que c'était le CRBM qu'on voyait de la fenêtre, là, le Centre de recherche en biotechnologie marine.
Oui, par là-bas.
Bon, mais c'est le genre de choses qui doivent déjà avoir abordé là, au niveau de... Je sais qu'il y avait beaucoup de recherches ici sur les microalgues.
Je n'en connais pas tant sur ce centre-là. J'ai fait des petites recherches rapidement.
Je pense qu'il y a du monde, il y a des experts dans le domaine à Rimouski. Je pense que c'était l'angle biocarburant là, qui était exploré davantage. Là. Okay. Mais n'empêche qu'une fois que on sait les bienfaits des microalgues, on sait dans quoi qu'on peut diriger cette production-là, les bienfaits en nutrition animale, nutrition humaine, toute une panoplie de... C'est un secteur en développement, là, en essor. Là. Avec la pièce au bout.
C'est la seule chose manquante.
Ouais. Fait que c'est ça. Tenez-vous au courant, ça risque de bouger.
Ouais. On va avoir des nouvelles sur Radio-Canada et...
Oh, hey, c'est pas une fin en soi d'être ici, là, d'en parler. Mais ça fait du bien, là, d'avoir un projet qui fait l'unanimité comme ça. Parce que j'ai une bonne réception, là, par j'ai passé à Radio en Gaspésie, je crois. Puis aux îles. Très bonne réception du reportage là, de journaliste qui m'avait contacté. Donc ça donne encore plus de crédibilité à ce qu'on essaye de faire. Là.
Puis actuellement, tes remords, tu les prends où?
Écoute, le plan initial, c'était de s'approvisionner directement d'un pêcheur. On avait identifié un super pêcheur du Havre-Saint-Pierre. Il collaborait avec nous, puis on avait tout un beau montage, mais avec le temps qui s'est écoulé, on a perdu cette fenêtre d'opportunité-là, c'est refermé, puis c'était ce qui se rapprochait le plus de homard natif, si tu veux. Là on s'approvisionne à la poissonnerie La Mer. Pourquoi La Mer? Parce que elle a une grande traçabilité au niveau de ses arrivages, donc on sait un peu mieux d'où vient l'homard. Quand il était pêché, combien de temps il a été en transport, puis on s'arrange avec ça. Mais il y a probablement de la variabilité que je mesure qui est due à ça. Je ne contrôle pas quand est-ce qu'il a été pêché. Ça fait-tu 10 jours qu'il ne mange pas? Ça fait-tu 2 jours qu'il ne mange pas? Je sais, cette variabilité-là, je n'ai pas de contrôle dessus, mais chez cette poissonnerie-là, j'ai confiance que ça soit plus standard qu'ailleurs pour l'avoir vécu un peu. Là. J'avais des pertes au début, inexpliquées, puis je pense que c'est vraiment il y avait moins de soins au vivier d'homard ou au transport. Mais idéalement, on s'approvisionnerait en saison, parce que là, la saison est fermée. Là, mon homard expérimental vient de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick. Donc, il travaille, il transite.
Il fait un bon bout de chemin.
Oui, il fait un bon bout de chemin, puis on n'est pas trop sûr d'où. Mais encore une fois, la réponse est bonne. L'approche comparative ne me permet pas de penser que c'est différent de ce qui se passerait avec un... Parce que pour l'avoir fait, au début de la saison, on avait des homards du Québec, exclusivement. Puis ça se passait très bien aussi. On n'a pas vraiment vu de... Avec notre design expérimental, là, les unités, la façon qu'on fait nos tests, je pense que c'est, on a atteint une méthode où il y a de la variabilité, elle est contrôlée. Là. Ça vient pas de, ça vient du homard, de son individualité, plus que du setup, là, du design qu'on a mis en place. Donc on est bien content.
C'est fun.
Ouais, ouais. Puis là, ben, ça se pourrait qu'il y ait des étudiants en maîtrise qui puissent s'intégrer à notre équipe. On envisage ça là, très bientôt, parce que les enjeux sont grands. Il y a une demande, hein, il y a un goût pour trouver une solution là, au niveau des gouvernements, puis au niveau des secteurs des pêcheries. Là.
Des étudiants d'ici, là, puis de l'Université Laval? Là.
Je sais pas, mais on n'a rien annoncé. Là. Mais c'est sûr qu'on va être en recrutement là, d'ici un an, certainement. Pour la phase un petit peu plus structurée que celle qu'on a actuellement, on était vraiment en préliminaire. On regardait les enjeux, on s'inspirait des autres travaux qui ont été faits sur le homard, mais avec d'autres produits, d'autres sous-produits, d'autres alternatives, pour essayer de dégager une originalité qui nous est propre, là. Pas tant par l'apport que par notre approche, puis la façon qu'on va tester les choses. Puis, je pense qu'on a atteint un très bon niveau. Je pense qu'on est prêt, là. Puis là, c'est là qu'on s'en va. Mm. Fait que c'était le fun?
Oui. Et puis, si tu me parles un petit peu plus de ton passé, mettons.
Mon passé?
Pas si lointain que ça non plus.
Oui.
Mais tu avais dit que tu n'étais pas spécialiste des homards. C'est quoi que tu fais d'habitude?
Moi, j'ai un profil très poisson. Ce qui est étrange, parce que j'ai commencé à en manger, je pense que j'avais 24 ans. J'en mangeais pas, mais j'en avais. C'est comme toi, là, j'avais un aquarium. J'allais dans les aquariums, j'étais intéressée, puis tout ça. J'en mangeais pas. Mais c'est ça, c'est les poissons, puis ça a toujours été... j'ai commencé à travailler... J'ai été inscrite ici au bac en bio général. J'arrivais du collège à Bécomo, j'ai fait mon DEC... Cégep d'Autry, en technique cynégétique et halieutique. Beaucoup de terrain, beaucoup de sciences naturelles. C'était une technique, dans le fond. J'arrive ici au bac, puis première job d'été, MPO, à l'Institut Maurice-Lamontagne, ça venait d'ouvrir en 92-93. Donc, la première job d'été, ça a été là, au bac, en tout cas. Donc, j'ai été recrutée par le groupe, la division aquaculture à l'époque, au MPO. On a travaillé sur la morue, le crabe des neiges, le flétan du Groenland, la plie rouge, la plie tout court, la plie grise. Donc, j'ai été introduite rapidement dans le domaine des poissons. Puis, je me suis laissée prendre au jeu. J'ai jamais vraiment été ailleurs. Mon intérêt principal, c'est toujours les poissons. À la maîtrise, puis au docteur. Je me suis inscrite à la maîtrise ici en océanographie.
Okay.
Fait le passage au doc, parce que le projet et le candidat se qualifiaient pour un passage au doc. Ce qui a été fait, là, ce que je conseille à tout le monde, hein, ça sauve beaucoup de temps. Si le projet est bon et que ça va bien, là, c'est une bonne option qu'on a ici à Rimouski. Donc j'ai fait sur la truite de mer, l'effet de la maturation sexuelle sur les capacités osmorégulatrices de. L'homme de fontaine qu'on retrouve ici en rivière. Donc, la truite de mer, en guillemets. Puis, dès que j'ai terminé, on m'a offert un poste là, en diversification de l'industrie maricole du Québec, là, par le biais de l'UQAR et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il y a un programme qu'ils ont mis de l'avant pour diversifier l'industrie maricole au Québec. La maricole, c'est pas ce que tu penses, là. C'est pas la marijuana, mais c'est l'aquaculture en condition de salée. On peut dire mariculture. Et ben c'est ça, on a identifié plein d'espèces qui seraient intéressantes à développer ici, dont le loup de mer, là, le loup tacheté. Puis j'étais, moi puis mes collègues de l'UQAR, on a été les premiers à mettre ça de l'avant comme une espèce avec un avenir commercial là, envisageable dans une période de temps raisonnable, c'est-à-dire 5 à 10 ans. Puis on le voit aujourd'hui, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais on a atteint le stade commercial, mais malheureusement, c'est pas au Québec. Ça s'est fait à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve. Mais on a beaucoup travaillé sur le loup tacheté. J'ai encadré plusieurs étudiants ici à Rimouski, là, comme co-directrice, directrice. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais depuis que je suis au Biodôme, ça fait 10 ans, j'étais professeure sous octroi ici, c'est-à-dire à contrat. Des contrats de 3 ans renouvelés. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, il va peut-être que tu ailles une position un peu plus stable. J'étais basée en Gaspésie, à Grande-Rivière. Je travaillais à Grande-Rivière, une station de recherche du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. J'étais comme prêtée par l'UQAR pour développer, travailler là sur place, puis mettre quelque chose de l'avant. Puis ça a bien fonctionné. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, il faut aussi que je trouve une place un peu plus stable. Et j'ai trouvé le poste au Biodôme. Je peux encore travailler sur l'aquaculture, la physiologie des poissons, mais j'ai toujours un angle conservation. Puis tu le vois, le loup, c'est une espèce menacée. C'est une des premières espèces de poissons qui a été déclarée en péril là, au niveau marin. Donc je travaillais déjà sur cette espèce-là. C'est facile de développer un petit côté conservation quand tu travailles sur les poissons. Même chose pour les microalgues, l'homard. C'est de la conservation, ce qu'on fait un petit peu là. On s'investit dans un angle qui est très durabilité et puis éco-responsabilité dans tous mes projets. Depuis que je suis au Biodôme, c'est ce que je m'efforce de faire. D'essayer de donner un petit côté givré à la physiologie des poissons.
C'est très actuel aussi là, de faire de la conservation.
Oui, mais d'une façon funky. C'est pas que de la conservation. C'est vraiment, il y a de l'appliqué, il y a du fondamental, puis il y a un gros bon sens aussi, au bout de la ligne, que j'adore. C'est ça qui me distingue peut-être de mes collègues, là, souvent. Je suis sûre qu'il y en a des comme moi, là, mais casser, ça donne. Est-ce qu'il y a une application rapide? Est-ce qu'il y a des gens? Y a-t-il une urgence? Y a-t-il... J'aime ça, ces questions-là. Ouais. J'aime ça participer au bien commun.
C'est important.
Oui, puis pas juste ma petite communauté. Il hein. Faut viser grand dans la vie, là. Puis rêver, c'est sûr. Donc, si on trouve l'alternative au homard, ben, on ne sera pas les seuls. Probablement qu'il y a plein de groupes qui font la même chose aujourd'hui, au moment où on se parle. C'est juste que nous, on en parle, puis on est actifs ici. Puis, je suis certaine, j'ai rien vu dans la littérature, par exemple. J'ai pas vu. Mais c'est ça, l'originalité, il faut qu'elle soit présente dans les projets que je m'investis. Ça, c'est peut-être un autre trait de caractère. Puis le loup, c'en était un. Personne n'y croyait, au loup tacheté.
Et comme on m'a déjà dit, pour aider une espèce à être bien conservée, il faut lui donner un aspect économique.
Ben oui, l'argent est là aussi. Il y a beaucoup plus d'argent en aquaculture. Puis maintenant qu'on s'intéresse beaucoup à la conservation, la responsabilité, développement durable, ben ça se mérite très, très bien. Je dirais, j'ai pas... Je me sens pas... En travaillant en aquaculture, je pense, je m'identifie à l'aquaculture de la conservation. T'sais, on peut sauver des espèces en péril par développer des techniques de culture d'espèces qui sont disparues. Tu sais, le bar rayé, il n'est pas revenu comme par magie là, dans le fleuve. Il y a eu la part du MFFP, là, le défunt, ben, le ministère du MFFP, qui est maintenant le ministère de l'Environnement. De la lutte contre les changements climatiques. Faune Park. C'est long. Mais le barrayé, il a été sauvé. Au Québec, il est revenu parce qu'il y a un programme d'aquaculture de la conservation qui a été mis de l'avant par les instances gouvernementales. Et des ensemencements massifs dans le fleuve, puis un suivi, puis des mesures, du contrôle, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben après cet entretien-là, moi, je m'en vais à la pêche. Fait que l'aquaculture de la conservation, aussi pour les espèces peu connues, tu sais, le loup tacheté, c'est une espèce qui est, oui, en péril, mais on en connaissait très peu de choses. C'était pas une espèce pêchée, là, ciblée par une pêche en particulier. Tu te dis, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi qu'une espèce comme ça est identifiée, elle n'est même pas pêchée. Puis elle est dans les profondeurs du fleuve. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'étudier dans un contexte d'aquaculture, ça permet d'isoler les facteurs environnementaux qui peuvent nous indiquer où ça ne va pas. Donc, les chercheurs de l'IML se sont beaucoup interrogés sur sa tolérance à l'hypoxie, les effets des teneurs en oxygène faible là, sur cette espèce-là, peut-être plus dans une dimension croissance et production population naturelle, mais quand même, il y a une composante aussi qui est utile à l'aquaculture, savoir les conditions de maintien de poissons en captivité, c'est important. Donc le parallèle n'est pas très loin. La coquille de la conservation peut servir aussi à la commercialisation. Moi, je pense qu'il y a un volet environnemental qui est très facile à créer. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai pas assez poisson, mais je travaille sur les macro-algues aussi.
OK.
Ouais, les macro-algues dans une dimension ensemencement pour recréer des forêts, si on veut, là, de macro-algues qui ont été dévastées ou mises à mal par les pêches ou par les changements climatiques. Là. On peut travailler beaucoup sur la plantation de macro-algues natives là, du Saint-Laurent dans les zones qu'on juste propice. J'ai travaillé un peu là-dessus dernièrement. Ouais. Puis, si tu regardes du côté aquaculture, ben, les algues, ça a un gros pouvoir de biorémédiation. Ça extrait les nitrates, les phosphates, l'ammoniac, de l'eau. Donc, tu as une belle composante conservation, mais tu as une belle composante aussi en captivité, en aquarium, par exemple.
C'est une part essentielle pour un écosystème.
C'est ça. C'est d'utiliser, d'arnacher les capacités d'un organisme à avoir une fonction bénéfique sur ton environnement, qu'il soit captif ou ouvert. Ce sera les macro-algues pour moi. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dernièrement, l'école des pêches, là, c'est pas une école qui est connue beaucoup, mais l'école des pêches et de l'aquaculture du Québec aussi, il y a un gros axe là, sur les macro-algues qui est mis de l'avant dans cette perspective-là de production puis de récolte. Là. Mais il y a aussi les espèces en péril là, de végétaux là, de bord de mer. C'est quelque chose qui est abordé aussi. La salicorne, dernièrement, j'ai appris qu'on pouvait cultiver la salicorne en captivité. Là.
C'est une algue, ça?
Hein?
C'est une algue?
Non, c'est une plante.
C'est une plante.
Mais tu sais, t'es encore dans une forme de conservation, puis de culture. Tu sais, si on en cultive, on n'ira probablement pas la chercher sur le bord de mer. Arracher les quelques plants qu'on peut trouver. Si on peut la trouver déjà au supermarché, peut-être pas, mais au marché public. Au lieu d'aller l'arracher puis la piétiner, puis puisqu'il y a des gens qui fréquentent le bord de mer, plus que ces espèces-là sont mises à mal là, au niveau de l'écosystème. Fait, de développer une culture en parallèle, pourquoi pas? Comme les algues là, qu'on retrouve. Il y a une petite entreprise gaspésienne là, qui fait la récolte des algues, là, qui les met sur le marché, frais.
Okay.
C'est le fun. C'est une dimension qui est intéressante. On nourrit, on cultive, puis on récolte d'une façon responsable la ressource plutôt que d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Dans le fond. Ouais.
Hein? Vive le local.
Oui, exactement. On est capable.
Ça, je pense qu'on a fait le tour de ton parcours. Mm-hmm. Ouais. À moins que tu aies autre chose à ajouter.
Oh, hey, je parle tellement. Je suis pas habituée. Ouais, non, mais je te remercie de l'invitation quand même, ça fait plaisir.
Ouais, je te remercie d'être venu.
Ouais. Puis c'est pas fini, vous allez l'entendre parler.
On se tient au courant là-dessus.
Mm-hmm.
Et, là, tu t'en vas pêcher.
Je m'en vais au bar rayé, je m'en vais métis. On dit-tu métis ou métis?
Métis.
Métis, c'est là que je vais. Mm. Fait beau, là.
Ben oui.
Mm. On va y prendre du soleil.
Donc, ouais. Un de tes loisirs, c'est la pêche?
Ben oui, être dehors, surtout. Quand même que je pogne rien. Les pieds dans l'eau, le beau soleil, le vent, les vagues. Il y a plein de gens aussi qui viennent, puis c'est tout dans un esprit de chiller. Là. On chill quand on va à la pêche. Fait du bien. Ouais, je récolte les champignons. Ces temps-ci, c'est magnifique. Par ici, là.
Oui.
Ah, j'ai dit un torticolis tellement je me suis tournée aujourd'hui. J'ai vu toutes les sortes de champignons que je n'avais jamais vues avant.
J'ai commencé à faire ça de l'identification de champignons aussi.
Ouais.
C'est bien le fun.
Mais moi, je mange que ceux que je suis capable d'identifier à coup sûr.
Ben, faut pas, aucun faut doute. Pas manger n'importe quoi.
Faut vraiment pas que j'aie de doute. Ouais. Avec le coprin chevelu cet automne, maintenant c'est la dermatose, là. Des russules. Tu peux pas te tromper, là.
Ouais. Dès qu'il y a un doute,
écarte
compostage.
Ça. Prends une photo.
Ouais.
Mmh. Ouais. Non, c'est un beau habit, mais encore là. Je me questionnais aujourd'hui. Si tout, puis là, je vois qu'il y a comme un engouement aussi. Il y a beaucoup de gens qui, avec la pandémie, je pense qu'ils ont développé des... s'intéresser plus à ce qui se passe dans ta forêt, dans ton milieu environnant. Puis il y a de plus en plus de cueilleurs.
Il y a de plus en plus de gens
qui ne savent pas cueillir.
C'est ça, il y a beaucoup de cas d'intoxication.
Ils arrachent tout, ils prennent tout, ils piétinent, ils mangent des choses qui n'auraient pas dû. Tu sais, mais c'est ça. De l'engouement, ça vient avec ça aussi. Je pensais aujourd'hui, notamment, parce que quelqu'un dans mon groupe a arraché une steppe avec... Tout arraché. J'ai fait comme, oh, OK. Faut que je te parle. Ouais, bon, mais, c'est ça. Ça vient avec le reste, hein. Les humains, de l'humainerie. Ouais.
Faut juste éduquer un petit peu.
Oui, mais il y a de l'espoir. Ouais.
Sur ces belles paroles, je te remercie.
Ça fait plaisir.
Passe une belle journée.
Oui.
Puis à tout le monde aussi, là.
Merci. Merci.